ça va permettre à un manager, mais j'ai envie de dire au-delà d'un manager, à toute personne, de déconstruire ses croyances qui sont souvent limitantes, comprendre les représentations et les projections qu'on va mettre au quotidien dans ses relations aux autres et la plupart du temps qui nous enferment et qui nous empêchent d'accéder à une forme de potentiel.
Bienvenue sur Génération Management, le podcast dédié au décryptage des pratiques managériales. Je suis Louis Lafont, fondateur de Wanae, une application pour digitaliser les process de management. Je vous propose de rencontrer chaque mois des managers, consultants, coachs pour analyser ensemble les sujets du management à travers leurs expériences. Bonnes pratiques, difficultés, tendances de demain, c'est celles et ceux qui le pratiquent au quotidien qui en parlent le mieux. Alors bienvenue sur Génération Management, le podcast pour développer votre puissance managériale. Salut Anne-Sophie, bienvenue sur Génération Management, je suis ravie de t'accueillir. Comment vas-tu ?
Bah bonjour Louis, je suis ravie d'être là en fait.
Super, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter ?
Ouais, donc je suis Anne-Sophie Attia, j'ai 51 ans, j'ai un fils de 21 ans et je vis à Lyon depuis début 2020. Et pour la petite anecdote, je viens tout juste de changer de vie professionnelle puisque j'ai quitté ce mois-ci un job salarié pour me lancer dans l'entrepreneuriat.
Ok, et voilà. tu étais où en salariat ?
Alors j'étais directrice régionale adjointe de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes.
D'accord. Et du coup, quel est ton parcours ?
Alors, depuis une vingtaine d'années, j'ai eu bien sûr plusieurs jobs. Mais je crois qu'il y a un fil rouge dans tous ces jobs. C'est le fait d'avoir créé des choses, d'avoir monté des projets, géré des projets. Moi, je suis plutôt une femme de développement et de création plutôt que de gestion et de dossier. Si je fais un focus sur mon parcours à Pôle emploi, qui a été quand même constitué d'une quinzaine d'années, je suis rentrée sur un poste de responsable com juste avant la fusion de la NPE et du réseau des ACEDIC. Ensuite, j'ai créé une direction de la stratégie que j'ai pilotée pendant 5 années en région centre, dont je suis originaire. Et puis ensuite, direction Paris pour une séquence qui a marqué mon parcours à la DGARH. Là, j'ai lancé un important projet de transformation et j'ai surtout dirigé la filière managériale de Pôle emploi, donc, qui avait pour vocation d'accompagner, et qui a toujours d'ailleurs, pour vocation d'accompagner la carrière des managers et de leur fournir tous les éléments pour développer leurs compétences, donc des formations, des dispositifs de coaching, de codev, etc.
Ok. Donc, tu as eu un grand parcours managérial, on va dire.
Bah, j'ai commencé comme tout le monde. Hein, j'ai managé, je crois, un alternant il y a une quinzaine d'années. Et puis, c'est vrai que sur mon dernier poste à Lyon, j'avais une 60aine de personnes et j'encadrais des managers de managers.
Ok.
Voilà.
Ok. Et aujourd'hui, du coup, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Quelle est ta nouvelle activité ?
Alors, j'en ai deux qui sont assez complémentaires, finalement. J'ai cofondé Attica. Attica, c'est une petite boîte qui accompagne des fondateurs de start-up à impact, un peu comme toi d'ailleurs avec Wanae, dans une phase importante pour eux qui est leur première levée de fonds.
Ok.
Voilà. Et puis, j'ai ma boîte qui s'appelle Kalinka Conseil. Donc, Kalinka Conseil a vocation en fait à accompagner des dirigeants, des managers, des fonctions RH sur 3 volets. Le conseil et la formation au management, le coaching, plutôt executive coaching, donc pour les dirigeants et les managers, et puis tout ce qui touche à la conduite du changement et à la manière dont il faut aujourd'hui absolument associer ces équipes quand on engage un changement un peu profond dans une boîte.
Ok.
Voilà.
Ok, très bien. Aujourd'hui, on va parler d'un vaste sujet qui est « Qu'est-ce qu'un bon manager ?»
Oui, alors je ne suis pas sûre d'avoir la réponse, hein. Je préfère le dire, mais voilà, on va tenter.
Il y a beaucoup de choses à dire. Et déjà, pour poser un peu le contexte, on va parler un peu des évolutions des attentes des collaborateurs en termes de management. Et selon toi, quelles sont-elles ces dernières années ?
Alors, c'est vrai que ces attentes, elles sont fortes et elles se sont presque transformées, j'ai l'impression, en exigences aujourd'hui. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a eu la crise Covid qui les a révélées au grand jour. Elles étaient présentes déjà, mais la crise Covid les a vraiment accentuées. Et puis, il faut rappeler quand même qu'on est dans un contexte de tension très forte sur le marché du travail. On observe aussi un mouvement de grande démission. Je crois que tu as fait un post dessus récemment, démission silencieuse. Donc ces attentes se sont vraiment transformées en exigences. Alors, c'est pas évident de lister des choses, mais il y a des choses qui sont assez évidentes. Les salariés aujourd'hui, ils veulent quoi ? Ils veulent du sens, ils veulent de l'autonomie, ils veulent plus de liberté dans leur organisation. Ils sont sensibles à être écoutés de manière authentique par leur manager, à avoir du feedback régulièrement pour se développer, parce qu'un salarié, il a envie de se développer. Les salariés, aujourd'hui, ils ont envie de contribuer vraiment à la valeur de l'entreprise, avoir de l'impact, ils l'appellent comme ça, avoir de l'impact. Et puis, ils sont très sensibles au fait que l'entreprise à laquelle ils appartiennent soit partie prenante des défis environnementaux qu'on a devant nous, quoi.
Ouais. Ok, donc pas mal d'évolutions en termes d'attente des collaborateurs. Et du coup, en termes de management, est-ce que ça évolue ces dernières années et dans quel sens ?
Du coup, cette question, elle est très liée à ce que je viens de dire. Ouais. C'est que finalement, en lien avec toutes ces attentes, on voit bien que le management aujourd'hui, qui est assez d'ailleurs en lien avec le mouvement de l'entreprise libérée que tu dois connaître, c'est un management en fait qui va créer les conditions de la confiance et de l'engagement, qui va créer un environnement de sécurité, y compris psychologique pour le salarié, qui va permettre au salarié de prendre des initiatives, de se responsabiliser, qui va permettre de tester, de faire des erreurs et puis d'en tirer des enseignements. Ce qui est important, je crois, c'est qu'en fait, on prenne en considération la singularité de chaque collègue, de lui faire des feedbacks, de lui permettre de se développer et de travailler aussi sur sa carrière. On entend aussi beaucoup la coopération, la collaboration, la co-construction. Donc en fait, le boulot d'un manager aujourd'hui, c'est de créer ces conditions-là, faire appel à la créativité des collègues avec le recours aux méthodes d'intelligence collective. Et puis ce management, il est à la fois exigeant et bienveillant, et il est résilient. Et je voudrais rajouter un truc qui me paraît super important, c'est parce qu'il y a eu quand même des incompréhensions, c'est que ce type de management, alors on trouve des termes un peu différents, hein, management 4.0, management collaboratif, le management par la confiance, on parle du manager coach, on parle du servant leader, on entend ça beaucoup. Ça n'exclut pas, évidemment, au contraire, de la préoccupation d'atteindre des objectifs. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du « ou », on fait du « et ». C'est-à-dire qu'on prend du plaisir au travail, mais à côté de ça, y a des objectifs à atteindre, ils sont là et c'est compatible. Et c'est important de le souligner parce qu'on a vu dans certaines organisations un peu un mélange des genres. Donc voilà, on peut avoir un management bienveillant et un management par la confiance tout en conciliant des objectifs business, quoi.
Ouais, et aujourd'hui, il y a même des tendances qui montreraient qu'on serait même plus productif avec ce style de management, puisqu'on engage un peu plus aussi les collaborateurs par rapport à leurs attentes.
C'est ça.
Ce que tu disais, quoi.
Ouais, complètement.
Ok. Ok, super intéressant. Et du coup, alors sur les qualités d'un manager, quelles sont déjà les qualités, les compétences de base d'un bon manager, ce qu'on peut appeler un peu les must-have, ce qu'il faut avoir pour être un bon manager.
Ouais. Alors peut-être avant de répondre, mais je vais répondre, je voudrais simplement préciser un truc, c'est que en fait le management c'est très situationnel. Et tu aurais pu me poser cette question il y a 40 ans, bon t'étais peut-être pas né, j'aurais pas eu la même réponse. D'accord. Parce qu'en fait les tendances managériales elles suivent l'évolution des organisations. Donc il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de recette toute faite. Et manager, en fait, ça va être un peu différent selon le contexte dans lequel on est, selon la taille de la boîte, start-up, grand groupe, selon l'activité. On ne va pas manager tout à fait de la même manière si on est dans une centrale nucléaire où il y a des sujets de risque très importants ou dans une PME, une société de service. Donc la taille, l'activité, le niveau de management, parce que on ne manage pas de la même manière un collègue employé ou un cadre sup, c'est évident. Et puis de la culture d'entreprise, parce que cette culture, souvent, elle marque beaucoup les modes de fonctionnement. Donc un manager, il doit aussi avoir cette capacité à s'inscrire dans la culture de la boîte à laquelle il appartient. Donc voilà, un manager, ça s'adapte et ça s'adapte aussi à son équipe, parce que dans une équipe, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. On n'est pas tous pareils, donc il y a aussi en management individuel la nécessité pour le manager de s'adapter. Alors après, pour répondre à ta question, une fois que j'ai dit ça, il y a bien sûr des invariants. En fait, l'activité d'un manager, ça s'inscrit toujours dans un domaine d'activité. Tu peux être en charge d'une équipe commerciale, tu peux être DRH ou DAF. Donc, à minima, il faut déjà maîtriser ou en tout cas avoir une bonne connaissance de ton domaine, des techniques de base, des outils associés. Et puis, si tu as une équipe un peu conséquente, il faut que tu aies quelques compétences en droit social, en gestion de budget, en pilotage. C'est ce qu'on appelle les hard skills, hein, tu l'as dit, et ça s'apprend en général à l'école, mais ça s'entretient aussi en formation continue.
Ok, donc il y a beaucoup de ce que je comprends de compétences métiers, les hard skills, qui sont des compétences de base, le socle pour être un bon manager. On parle aussi pas mal de soft skills, et ça me fait penser aussi à ce que tu dis sur s'adapter à son équipe, etc. Est-ce qu'on peut parler un peu des soft skills? Est-ce que tu peux nous définir ce qu'est un soft skills et qu'est-ce qu'on appelle les soft skills aujourd'hui?
Oui, bien sûr. Alors, je vais essayer d'être synthétique parce que je pourrais en parler des heures. Je pense que pour résumer, on peut dire que les soft skills sont des compétences qui vont toucher le caractère, l'attitude, le comportement, le savoir-être, au fond, d'une personne. Ce sont des compétences qui sont d'ordre cognitif et qui vont nous permettre, en fait, de nous adapter à un monde qui change sans cesse. Hein. On est dans ce monde VUCA qu'on connaît tous. Mmh. Alors, il y a 4 compétences très connues en soft skills qu'on appelle les compétences du 21e siècle. Alors, il y a un petit truc mémotechnique pour s'en souvenir, c'est les 4 C.
D'accord.
Coopération, communication, pensée critique et créativité. Okay. Donc, celles-ci, elles sont très connues, on les trouve partout, elles sont décrites, mais elles sont extrêmement importantes.
C'est les plus répandues, celles qui utilisent le plus
Elles sont répandues, elles sont nécessaires, mais après, on peut les décliner et j'en ai lissé quelques-unes, la capacité à entrer en relation avec l'autre, à être sociable, à faire preuve d'empathie, à prendre des initiatives. Ouais. Tu as tout ce qui touche la vision, l'intuition. Donc après, elles sont multiples et nombreuses. Mais par contre, ce qui est important de souligner, et moi j'en suis ravie, c'est que ces soft skills, elles reposent sur 2 types d'intelligence dont on parle peu dans certains environnements professionnels, et c'est bien dommage, que sont l'intelligence émotionnelle et l'intelligence relationnelle. Donc voilà un peu leurs caractéristiques.
D'accord. Et donc ces intelligences, donc intelligence relationnelle, c'est comment agir avec les autres. Mm-hmm. Et intelligence émotionnelle, c'est comment gérer ses propres émotions et capter celles des autres.
C'est ça.
Ok. Et... du coup, sur les soft skills, est-ce qu'il y en a qui sont importantes à maîtriser pour un bon manager?
Oui, alors du coup, là, je vais répondre, et c'est assez personnel, hein, cette réponse, mais moi, il y en a 3 vraiment qui me semblent déterminantes. Alors, c'est aussi en lien avec certainement mon parcours. La première, c'est l'esprit critique. Je l'ai cité juste avant. Ouais. Alors, l'esprit critique, c'est quoi? C'est cette capacité qu'on peut avoir à accueillir, à intégrer des infos en grand nombre, à les analyser, à les questionner et surtout à les remettre en question. C'est-à-dire, c'est important pour un manager quand son N-1 lui amène un projet, il faut qu'il soit un peu challengeant, il faut qu'il puisse peut-être aller au-delà des hypothèses un peu évidentes pour pouvoir décider de la meilleure façon. Et c'est important au moment où, effectivement, on prend cette décision. Et parfois, ça demande un peu de courage parce qu'on peut se mettre en décalage avec le monde qui vous entoure. Ouais. Mais ça me semble important pour sortir justement de cette pensée un peu mainstream et puis de faire preuve de créativité. Donc voilà, l'esprit critique. Après, il y a une deuxième compétence soft skills que je trouve de plus en plus importante. C'est ce qu'on appelle la réflexivité. Alors, c'est quoi la réflexivité? C'est très simple. C'est cette faculté qu'on va avoir quand on est manager à être à la fois dans l'action, mais à s'arrêter régulièrement pour faire des pauses et puis pour se demander, OK, là, j'ai fait comme ça, est-ce que ça a marché? Est-ce que j'aurais pu faire autrement? Qu'est-ce qui a coincé? Et pour en tirer des enseignements et faire mieux la fois d'après. Et cet aller-retour, en fait, il est super important. C'est une forme de discipline, mais ça fait vraiment progresser. Ouais. Et si on le... Si on l'instaure aussi avec CN-1 en entretien de suivi individuel par exemple, ça permet aussi de faire progresser son manager et la relation managériale. Donc ouais. C'est vachement important.
Donc c'est d'être toujours dans une logique d'amélioration continue de son management okay, et de sa manière de faire.
Ouais.
Ok. Donc esprit critique, pardon, réflexivité.
Ouais. Et le dernier, ouais, le troisième que j'ai voulu un peu partager, c'est la connaissance de soi.
Ok.
Alors là aussi, c'est un grand sujet.
On peut en parler, ouais, tout ouais. À fait. Alors, bien se connaître, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que ça apporte au manager?
Alors, plein de choses. Je vais peut-être citer 2-3 points. D'abord, ça permet de connaître ses forces, ses zones de confort, mais aussi, en fait, tous les sujets sur lesquels il faut progresser. Et du coup, ça permet de choisir ces sujets de développement de manière très consciente. Donc ça, c'est important. Après, ça permet de connaître ces espaces de ressourcement. Franchement, manager, parfois, c'est pas simple, c'est difficile, c'est énergivore. Ouais. Et un manager, il a tout intérêt à bien se connaître pour pouvoir gérer habilement son écologie personnelle et savoir ce qui va lui donner vite de l'énergie à nouveau. Deuxième D'accord. élément. Après, tu l'as évoqué tout à l'heure et c'est assez répandu, donc je vais pas m'éterniser, mais mieux se connaître, c'est aussi identifier ses émotions et arriver à les gérer de manière plus sereine. Mais surtout, pour moi, se connaître, ça va permettre en fait à un manager, mais j'ai envie de dire au-delà d'un manager, à toute personne, de déconstruire en fait ses croyances qui sont souvent limitantes, de comprendre les représentations et les projections qu'on va en fait mettre au quotidien dans ses relations aux autres et la plupart du temps qui nous enferment et qui nous empêchent en fait d'accéder à une forme de potentiel. Donc c'est super important et ça réduit l'écart en fait, mieux se connaître, ça va réduire l'écart entre la personne que je suis et la perception que j'ai de moi-même.
Ouais.
Voilà. Et donc, forcément, ça donne davantage confiance en soi, en les autres. Ça permet d'être plus serein, d'éviter des malentendus, des déceptions et d'agir de la meilleure manière qui soit avec son environnement.
D'accord. J'ai l'impression, là, dans ce que tu dis, c'est qu'il y a beaucoup de parallèles entre progression personnelle ou développement personnel et être un bon manager, de ce que j'entends.
Ouais, complètement. Ouais, complètement.
Ok. Et sur la relation manager-manager, qu'est-ce que ça apporte également?
Ce que ça apporte, je pense que c'est une forme d'authenticité dans cette relation. Moi, je pense qu'on manage bien quand on est dans une relation juste et authentique avec ses équipes, qu'on est capable de dire les choses, d'être transparent, alors de dire les choses qui vont bien, mais aussi les choses qui ne vont pas bien. Et pour faire ça, il faut justement être aligné, être droit dans ses bottes, être... confiant. Et c'est pour ça que quand on se connaît bien, on a cette capacité en fait à faire face à ces situations-là sans qu'elles soient dramatiques, sans qu'elles fassent peur. Souvent, un manager, il a un peu la pétoche quand il démarre de dire à son collègue, son N-1, t'as déconné. Ouais. Or, c'est ce qu'on attend de lui.
Ouais.
Donc, il faut être en capacité de d'y arriver. Je pense que la meilleure des façons, c'est d'être soi-même hyper aligné et juste surtout. Et juste.
Ok, donc ça permet une vraie relation de confiance qui est un pilier aussi entre le manager et le manager.
En tout cas, dans ce que j'ai observé et vécu, c'est vraiment là que je vois la pépite en fait d'une relation managériale.
Ouais. Ok, super intéressant. Et donc bien se connaître, c'est pas forcément évident.
Non.
Est-ce que tu aurais des outils à disposition pour les managers pour apprendre à se connaître?
Ouais, et puis dire que en fait le chemin n'est jamais terminé parce que même à 50, 60 ans, je crois que comme on continue d'évoluer, donc en fait on continue d'apprendre à se connaître, il n'y a pas de fin. Je sais pas si c'est prometteur, mais voilà. Alors peut-être 2-3 trucs. Tout d'abord, s'autoriser à prendre le temps du recul, ce que je disais tout à l'heure en parlant de réflexivité. Je pense vraiment que ça peut aider et puis surtout ne pas avoir peur de partager ça avec ses pairs, avec ses collègues, avec son chef, parce que ça permet d'apprendre à se connaître. Aller chercher des feedbacks, super important. On parle beaucoup de feedback aujourd'hui, mais je pense que c'est bien. Et le feedback, c'est pas que aller le chercher vers son N plus 1. Mmh. C'est aller le chercher auprès de ses pairs, auprès de, pourquoi pas, de son équipe.
Ouais.
Ça demande aussi un peu de courage, mais franchement, c'est super, super utile.
Donc les feedbacks, c'est en termes de management, comment je pourrais m'améliorer, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai moins bien fait.
Ouais, par exemple, à l'issue d'une réunion, bon, ouais, tu sors de la réunion, tu dis ouais, « j'étais pas en forme, c'était pas top, tiens, je vais aller chercher du feedback ». Tu vas voir un collègue, deux collègues de ton équipe, hein, si tu étais en situation de management d'équipe, et tu dis « ouais, j'étais pas en forme, qu'est-ce que tu aurais fait autrement ? Je trouve que là… » Enfin, tu vois, chercher du feedback, quoi.
Ok, ok.
Sur les méthodes, sur les sujets abordés lors de la réunion. Du coup, ça permet d'enclencher aussi une dynamique sur la réunion suivante. Et puis, ça prend en considération, en fait, TL-1, quoi. Donc, c'est tout bénef et c'est plutôt sympa.
Ouais.
Autre conseil, bah, tous ces dispositifs qui existent, ces tests de personnalité dont tu as, je pense, entendu parler, je crois que tu as posté aussi
sur le
MBTI. Donc il y en a un certain nombre, il y a évidemment le MBTI, MBTI, il y a Processcom, il y a l'Ennéagramme, il y a le DISC, il y a aussi un test qui s'appelle le quotient émotionnel, qui va chercher plutôt du côté de la gestion des émotions. Donc, je pense que c'est vraiment très utile et je suis ravie de voir qu'il y a de plus en plus de DRH qui s'emparent de ce type d'outils et les proposent en fait à leurs salariés. Parce que ça permet vraiment d'avancer. Alors, c'est pas tellement les résultats, parfois c'est chiffré, des couleurs, etc., mais c'est prétexte au dialogue avec quelqu'un avec qui tu débriefes, et ça permet d'avancer plus vite, d'avoir des prises de conscience, des déclics. Vraiment, c'est assez puissant. Et puis, évidemment, le coaching, je pense que tout manager devrait un jour ou l'autre pouvoir bénéficier d'un coaching avec un bon coach, parce que c'est une aventure, mais c'est une aventure qui permet d'aller chercher du potentiel et des ressources qu'on n'a pas forcément explorées et qu'on n'a pas forcément exploitées. Donc c'est super utile.
Ouais. Ouais, tout à fait. Et puis c'est vrai que les tests de personnalité, du coup, tu as dû les faire, MBTI, DISC. Et c'est vrai que c'est super intéressant de comprendre comment l'autre fonctionne pour s'adapter aussi à ton discours, ton discours, etc. Quoi.
Oui, on revient au management situationnel et à la nécessité de s'adapter. Donc, c'est des tests qui permettent non seulement de se connaître, mais de décoder comment l'autre fonctionne.
Ouais.
Et donc, d'entrer plus facilement en relation avec l'autre.
Ouais,
complètement.
Ok, très intéressant. Et du coup, comment on peut devenir un bon manager ? Est-ce que ça s'apprend ou est-ce qu'on est bon manager ?
Ah, la question, Louis. Difficile, cette question. Pardon.
Pas évident, ouais.
Question difficile. Alors, je vais répondre avec conviction, mes convictions, qui ne seront peut-être pas partagées, mais ça crée du débat et c'est bien. Moi, je pense qu'on a effectivement, naturellement ou pas, une fibre pour manager. Et dans cette fibre, il y a deux choses. Il y a d'être curieux, d'aimer s'intéresser à la nature humaine et d'aimer les gens, a priori. Je pense que ça, c'est important. Ensuite, dans cette fibre, il faut qu'il y ait un peu de résilience, parce que on ne l'a pas dit, mais manager, c'est donner beaucoup de soi. C'est parfois hyper ingrat et c'est aussi source de grand bonheur. Enfin, quand tu as dans tes équipes des gens des hommes, des femmes qui étaient un peu en retrait et qui se mettent à vraiment prendre la parole, s'impliquer, être force de proposition, se développer, se révéler.
Évolue.
Franchement,
c'est une grande satisfaction.
Mais par contre, il y a aussi beaucoup, beaucoup d'emmerdes à gérer et de situations problématiques. Donc, il faut être résilient.
Ouais.
Donc voilà, donc aimer la nature humaine, être résilient. Ça se travaille, mais je pense qu'il faut quand même l'envie. En fait, il faut avoir envie.
Ouais.
Il faut avoir envie, quoi. Donc voilà. Après, je sais pas si tu me demandes.
Ouais, comment on travaille ? Bonne question. Comment on travaille ?
Comment
Tu fais l'interview et les questions.
Non. Non, je t'ai tendu le micro.
Non, mais oui, effectivement, comment on peut travailler ?
Ah, c'est ça, tu vois, quand tu manages depuis longtemps, t'as quand même un peu de côté directif. Non, pardon, excuse-moi, Louis. Alors, moi, je pense vraiment qu'en matière de management, on ne peut pas tout apprendre en formation.
Ok.
Vraiment, j'en suis convaincue. Mais En revanche, je pense que la formation, ça peut rassurer certains et ça donne une forme de légitimité. Donc, je trouve qu'il faut y aller. En formation de management, c'est bien, il faut y aller. Ouais. Et puis, la formation, aujourd'hui, les formations sont de plus en plus participatives. Elles sont basées sur des jeux de rôle. Il y a de l'ingénierie, de la pédagogie inversée. Enfin, elles sont nature, là aussi, à déclencher des prises de conscience, d'aller voir comment fait l'autre. Donc, on n'est plus dans des choses descendantes et théoriques. Donc, je pense que c'est bien d'aller en formation. Mais ça ne fait pas tout. Et à mes yeux, la meilleure école, mais je pense que tu t'en doutes, c'est l'expérience.
Ouais.
Parce que l'expérience, c'est être dans l'action, c'est parfois réussir et parfois faire des erreurs.
Ouais.
Mais en faisant des erreurs, on apprend, évidemment. C'est se confronter à des situations qui vont être variées, à des profils de collaborateurs qui sont différents et qui, à chaque fois, te permettent de cranter un peu plus. Y a aussi pour apprendre, je crois, et... je l'ai évoqué récemment quand je suis partie et que j'ai quitté mon poste, il y a le rôle des modèles. Parce que dans un parcours managérial, forcément, tu es peut-être manager, mais tu es aussi le N-1 de quelqu'un d'autre.
Ouais. Ouais.
Et ton chef, tes chefs, certains peuvent, pas tous, hein, mais certains peuvent vraiment te façonner, t'inspirer, te donner des alors, au-delà des conseils, c'est... Parfois, moi, je me surprends à être un peu dans le mimétisme parce que j'ai trouvé ça puissant, parce que... Mais c'est naturel, quoi. Je me dis pas, je vais copier. C'est juste que ça vient.
Ouais.
Donc,
ouais.
Je crois beaucoup à ça, au rôle modèle. Et du coup, il y a tout le sujet masculin-féminin qui est passionnant. Pas l'aborder, mais...
Ouais.
Et juste pour finir, moi, je pense que finalement, à ta question de comment on apprend, je pense que les plus grands vecteurs d'apprentissage, sont tes équipes, au fond.
Ouais.
Finalement, quand tu réfléchis, c'est eux qui font que tu grandis, quoi. Et du coup, c'est cette relation managériale qui grandit au fur et à mesure du temps que tu passes avec une équipe et qui te permet de, d'atteindre tes objectifs, de créer, d'avoir du plaisir. Enfin, c'est une vraie aventure humaine.
Ouais, et au final, c'est d'arriver à son propre style aussi de management, parce que c'est vrai que tu parlais des modèles et de ce qui nous inspire et de ce qu'on reproduit, mais on peut aussi à l'inverse reproduire des schémas qui étaient plutôt négatifs dans le management, des styles de management plutôt directifs qu'on reproduit.
Bien sûr.
L'idée aussi, c'est d'arriver à son propre style de management, quoi.
Ouais, et ça dépend de plein de choses, hein, de la manière dont toi tu es, c'est sûr. Mais je crois quand même qu'aujourd'hui, avec ce qu'on s'est dit au début de l'interview sur l'évolution des tendances managériales, je crois qu'aujourd'hui, les managers n'ont plus beaucoup de choix que d'évoluer. C'est-à-dire que pour moi, le management directif, exclusivement directif, parfois il faut l'être quand il y a un enjeu de délai, mais il est passé. Et c'est pas une histoire de génération, hein. Pour moi c'est pas que les jeunes générations qui aspirent à un management plus collaboratif. Je pense que c'est une aspiration plutôt sociale, sociétale de notre temps.
Et c'est bien. Ok. Super, on arrive à la fin de ce podcast. Pour finir, est-ce que tu aurais une erreur à éviter pour les jeunes managers ?
Ah, alors une que j'ai faite.
Ah bah ouais, encore mieux.
Tu vois, ça me vient là. Ouais. En fait, je crois qu'il faut... C'est l'impatience.
C'est-à-dire gérer
que,
l'impatience ?
Ouais, gérer... Enfin, il faut aller au-delà de l'impatience qu'on peut ressentir face à un collègue, un collaborateur qui ne serait pas au rendez-vous de ce qu'on aurait projeté sur lui.
Okay.
Donc, c'est impatience et frustration. Parce que si le job est bien fait, ton collaborateur, il va te le rendre à un moment ou à un autre. Donc, patience. Alors, évidemment, patience ne veut pas dire inaction. Mais voilà, il faut y croire.
Ok. Et une recommandation de livre ou de contenu pour nos auditeurs ?
Ouais, alors plusieurs. J'adore, hein. J'adore ta rubrique, parce que j'écoute Génération Management, évidemment.
Ah, je suis très flattée.
Voilà. Alors moi, j'ai deux recommandations. La première a vraiment un lien direct avec ce qu'on vient d'évoquer. C'est un auteur que j'adore, hein. c'est un prof d'université, un chercheur, il s'appelle François Dupuis.
Ouais.
Et il a écrit un bouquin qui s'appelle, alors qui date un peu, hein, qui s'appelle Lost in Management.
Okay.
Puis plus récemment, il a complété ce premier bouquin par un autre ouvrage qui s'appelle « On ne change pas les entreprises par décret ». Et je trouve que ça donne, pour quelqu'un qui s'intéresse au management, ça donne, je parlais tout à l'heure de l'évolution des orgas et du fait que les tendances managériales suivent ces évolutions-là. Il explique de manière très accessible et super bien. Moi, ça m'a beaucoup aidé à comprendre pas mal de choses.
Okay.
Et puis, ma deuxième recommandation, c'est un podcast qui, moi, me fait beaucoup de bien.
Ouais.
J'écoute ça, en allant faire mes courses. Alors, il n'a pas besoin de pub, c'est Charles Pépin, c'est un philosophe qui est relativement connu, même très connu. Et il a un podcast qui s'appelle « Une philosophie pratique », que je trouve très ressourçant, qui donne plein d'énergie. Alors, il y a vraiment beaucoup de sujets qui sont abordés, pas du tout, en tout cas, pas forcément le monde de l'entreprise et des orgas, mais l'amitié, l'amour, le sel de la vie, l'impatience, faut-il s'indigner, Mais c'est là encore très accessible et très inspirant.
Okay.
Et je voulais partager ça parce que j'écoute beaucoup en ce moment.
Bah écoute, super, nous on adore aussi les podcasts sur Génération Management, bien sûr. écoute, merci beaucoup Anne-Sophie, j'ai passé un super moment, c'était très intéressant, j'espère que ça t'a plu.
Moi ça m'a beaucoup plu, merci à toi Louis.
À bientôt.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Génération Management, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à suivre le podcast Génération Management et le noter. À très vite pour de nouveaux épisodes.